Bonsoir. En Grande-Bretagne, de nombreuses questions après l'assassinat de David Haymes vendredi. L'homme interpellé après les faits, un Britannique d'origine somalienne, vivait à Londres, à 80 km de la circonscription du député conservateur. Reportage de notre correspondante au Royaume-Uni. Emmanuel Macron est-il allé assez loin dans sa reconnaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre 61 ? Non, pour les manifestants qui commémoraient aujourd'hui le 60e anniversaire de ce massacre commis en plein Paris. Premier match à domicile pour l'OM depuis la mort de Bernard Tapie. Les footballeurs rendront hommage à leur ancien président. Mais pour renommer le vélodrome Stade Bernard Tapie, c'est pas gagné, nous dira Jean-Pierre Blimeau. Et puis la pluie arrive par l'ouest. Prévision météo de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Faut-il renforcer la sécurité des élus britanniques? Deux jours après la mort du député David Haymes, poignardé dans sa circonscription de Leigh-on-Sea à l'est de Londres, la ministre de l'Intérieur envisage une protection policière pour les députés quand ils ne sont pas au Parlement. Et on en sait un peu plus sur le profil de l'auteur, arrêté juste après les faits. Il avait pris rendez-vous pour rencontrer le député. Pourtant, cet homme de 25 ans, un Britannique d'origine somalienne, vivait dans le nord-ouest de Londres, à 80 km de Leigh-on-Sea, et la maison de Lady Somerset Road, où il habitait, a été perquisitionnée par la police antiterroriste. Reportage sur place de Laura Calmus.
Lady Somerset Road est inhabituellement animée cet après-midi. Deux officiers de police devant la porte de l'une des maisons et une dizaine de journalistes et photographes qui capturent le moindre mouvement. Selon plusieurs médias, c'est ici qu'Ali Harbi Ali vivait avec ses parents. Dans ce quartier très résidentiel du nord-ouest de Londres, la nouvelle est très surprenante pour le voisinage.
On était très choqués quand on a appris. On a vu le garçon grandir. On les connaissait comme on connaît ses voisins. Ils étaient très plaisants.
Une dame sort de la maison mitoyenne. Elle veut rester discrète et évasive.
On les connaît, ils sont très gentils. Ils ont trois garçons. La police est là depuis vendredi. Les parents sont à l'hôtel, je pense.
Ali Harbi Ali, âgé de 25 ans, est britannique d'origine somalienne. Selon le Sunday Times, il s'est radicalisé tout seul pendant le confinement. Le suspect a agi seul. Selon la chaîne Sky News, il avait pris rendez-vous avec le député il y a une semaine et vendredi, il fait 80 km en train pour se rendre à l'église de Leigh-on-Sea. Il a ensuite attendu calmement son tour avant de poignarder sauvagement David Haymes. Le Sunday Times affirme que l'assaillant avait de la famille à Leigh-on-Sea, mais pour le moment, rien ne vient expliquer qu'il s'en soit pris aux députés. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Bill Clinton est sorti de l'hôpital. L'ancien président américain, âgé de 75 ans, avait été admis mardi dans un centre médical de Los Angeles pour une infection. Il se trouvait en Californie pour un événement lié à sa fondation. Il réclame la reconnaissance d'un crime d'État. Plusieurs centaines de manifestants ont commémoré cet après-midi à Paris le 60e anniversaire du 17 octobre 61. Une manifestation d'Algériens de France à l'appel du FLN avait été réprimée dans le sang. Hier, pour la première fois, le chef de l'État a qualifié dans un communiqué les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon d'inexcusables pour la République. Maurice Papon était à l'époque préfet de police de Paris. Un premier pas important pour certains, insuffisant pour d'autres, comme pour le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, rencontré dans la manifestation parisienne par Marion Ferrer.
60 ans, c'était l'occasion pour le président de la République de nommer la réalité, c'est un crime d'État, de prendre l'engagement d'ouvrir absolument toutes les archives. Vous savez, il n'y a pas de démocratie sans vérité et il n'y aura pas de réconciliation sans vérité. Réconciliation au sein de la communauté nationale, réconciliation avec l'Algérie. Et là, il a raté l'occasion de faire un pas de plus vers cette réconciliation. On sait qu'elle est compliquée, mais il nous faut absolument ce devoir de vérité. Et ce devoir de vérité, ça commence par nommer les choses. C'est pas un crime inexcusable de Maurice Papon, le 17 octobre 61. C'est un massacre, c'est un crime d'État organisé par l'État. Il faut le reconnaître comme tel.
Les manifestants réclament notamment, vous l'avez entendu, l'ouverture complète des archives, car le nombre de morts du 17 octobre 61 n'a jamais été établi avec précision. Jean-Luc Mélenchon veut élargir sa base militante en vue de la présidentielle. Le leader de la France Insoumise a lancé ce matin un nouveau mouvement, l'Union Populaire. Depuis la ville de Reims, dans un discours d'un peu plus d'une heure, devant 2000 militants, il a étrié le bilan d'Emmanuel Macron, appelé la jeunesse à se mobiliser et promis, s'il est élu, de bloquer les prix du gaz, de l'essence et de l'électricité. Vous l'entendrez dans le journal de 19h. C'est le premier match de l'OM à domicile depuis la mort de Bernard Tapie. Marseille reçoit Lorient et un nouvel hommage sera rendu au stade Vélodrome à l'ancien président du club de football. Certains supporters aimeraient d'ailleurs le rebaptiser stade Bernard Tapie. Mais ce n'est pas si simple, voire quasiment impossible. Les explications de Jean-Pierre Blimaud.
Rebaptiser en partie ou en totalité le stade Vélodrome Bernard Tapie, c'est un pas quasi infranchissable pour la ville de Marseille d'abord, propriétaire de l'enceinte, mais plus décisionnaire depuis que le stade est géré par le consortium Arema depuis 2010. Ce même consortium qui, en 2016, a signé un contrat avec Orange pour rebaptiser le stade Orange Vélodrome. Sébastien Gibrayel, adjoint au sport de la ville de Marseille.
La mairie de Marseille ne peut pas venir dire demain matin, ça va s'appeler le Bernard Tapie Vélodrome. On ne peut pas venir casser un contrat, on n'a pas ce pouvoir, on va dire.
Chaque année, Orange verse environ 2,5 millions d'euros et il reste 50 contrats. Mais il y a aussi ce partenariat public-privé avec le consortium Arema qui garantit 12 millions de recettes annuelles à la ville de Marseille, dont une partie provient du naming, et cela pendant 24 ans encore. L'argent, et au-delà le foot business, c'est donc le principal frein, regrette Jean-Michel Verne, auteur de deux ouvrages sur l'OM, dont Enquête sur un club qui rend fou.
L'histoire du Vélodrome a complètement échappé aux Marseillais. Hein. Le contribuable marseillais paye des fortunes pour le stade Vélodrome, et en même temps, on ne peut pas prendre de décision concernant le fait de renommer le stade. Vous voyez, on perd le contrôle.
Et les supporters dans tout cela, ils sont divisés, mais ils verraient d'un bon œil que le Virage Sud, la seule tribune qui ne porte pas de nom, prenne celui de Bernard Tapie.
Marseille-Lorient, le coup d'envoi est à 20h45. Et puis pour le 44e marathon de Paris, le Kényan Elisha Rotich l'a remporté sous un grand soleil en 2h04 et 21 secondes. Nouveau record de l'épreuve chez les dames. C'est l'Éthiopienne Tigist Memouye qui l'emporte en 2h26 et 11 secondes. Astérix au cirque, c'est le titre d'une histoire inédite signée Goscinny. Anne Goscinny, la fille du scénariste des aventures du célèbre Gaulois, révèle dans une interview au Spiegel avoir retrouvé 20 pages de scénario tapées à la machine, une moitié d'album. Mais pour l'instant, Anne Goscinny n'envisage pas de terminer l'histoire inachevée. Allez, une envie d'évasion cet automne ensoleillé, comme beaucoup de Français, vous avez peut-être envie d'investir dans un camping-car. Jusqu'à demain à Brest, c'est le salon du véhicule de loisirs. Sur 2 ans, le nombre d'immatriculations a progressé de 17%. Ce qui marche particulièrement bien, ce sont les fourgons et les vannes, plutôt que les véhicules géants. Écoutez Jean-Paul Abalin, il est le directeur de Bretagne Camping-Car, il répond à Margot Kefelec.
Il y a un fort engouement pour le camping-car, surtout depuis le déconfinement l'année dernière, où on a ressenti que les gens avaient un besoin de liberté, de sécurité aussi en même temps. Donc, et ça permet de sécuriser ses voyages parce qu'on peut prévoir quelque chose et ça ne va pas être arrêté parce qu'il y a une telle condition ou telle condition. On voit des nouveaux produits qui arrivent, c'est les compacts qui sont un intermédiaire entre le fourgon aménagé et le camping-car. Ce sont des véhicules un peu plus courts généralement et plus étroits. Donc, qui permettent d'avoir un peu plus d'habitabilité qu'un fourgon. Et ça n'a pas l'encombrement d'un camping-car, donc c'est plus maniable, ça reste plus maniable. Voilà un peu la tendance, et je pense que dans les années à venir, on aura encore plus de modèles, et ça va aussi se démocratiser. Alors on est sur des délais entre 8 et 10 mois, voire un peu plus pour certains modèles. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir maintenant, si on veut bouger l'été prochain, il faut prévoir.